s'emparer de la littérature, chacun et interpréter, laisser libre au lecteur.
Voilà.
Elle
était, et voilà, était vraiment... et Virginia Woolf avait une parole que tu as répétée dans « Ne me laissez pas ». Tu le dis, page 171, je vais lire exactement ce que tu dis. Elle dit ceci. Elle dit... elle dit, alors que je retrouve, ne me laissez pas aux riches et aux aristocrates, lisez-moi pour vous-même.
Magnifique citation.
Voilà. Hein, c'est vrai et que, surtout, elle dit, si on vous dit défense d'entrée, entrez immédiatement.
Ah mais voilà, mais vous avez vraiment souligné des phrases que j'adorais. Ça, c'était un conseil qui était donné par son père, vous voyez, donc ce père qu'il détestait parfois, mais qu'il admirait, ce père ambivalent. Donc, à la fin, il a un côté subversif quand même, rebelle, irrévérent de ces personnages qui s'est considéré un outsider, les pères...
Radio Libertaire, 89.4, le grand soir du mardi, émission du groupe La Rue de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître. Nous avons invité ce soir Denis Colombi, auteur du livre qui travaille vraiment aux éditions Payot. Nous avons de plus en plus de mal à dire ce qui relève du travail ou non, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Est-ce que travailler, c'est tout simplement avoir une activité professionnelle qui permet de gagner sa vie? Qu'en est-il du travail domestique, du travail associatif, du bénévolat, de l'aide à la personne, des heures supplémentaires non rémunérées pour montrer au patron, au chef qu'on est un bon élément, investi sur lequel il peut compter? Les sénateurs veulent aujourd'hui nous faire travailler gratuitement pendant 7 heures pour combler le déficit de la sécurité sociale. Est-ce encore du travail? Donc, nous recevons aujourd'hui Denis Colombi donc, pour nous parler de son ouvrage « Qui travaille vraiment ?». On va vous demander, Denis, de vous présenter peut-être, de nous dire ce que vous faites.
Alors moi, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée et par ailleurs sociologue. J'ai écrit, c'est mon troisième ouvrage de sociologie et de vulgarisation de la sociologie, donc ici, qui parle du travail, les deux précédents parlaient de la pauvreté et du capitalisme. Donc j'essaye d'explorer l'économie, le monde économique avec les outils de la sociologie et spécifiquement d'une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie économique.
Ok. Alors, quelle est pour vous la signification politique de l'expression valeur travail qu'on entend constamment dans la bouche des hommes politiques, alors qu'on a l'impression, plus on entend cette expression, que le travail a de moins en moins de valeur, qu'il est en fait considéré comme une charge.
Oui, alors c'est intéressant parce que le débat sur la valeur travail qui récurrent depuis quelques années, en fait, il revient. je ne sais même pas si c'est un débat, c'est une expression. Ça a été un peu un tes poids de départ qui m'ont poussé à écrire ce livre. C'est-à-dire, tu vois, on a ce thème qui revient régulièrement à la bouche des politiques, la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail. Et il me semble toujours qu'en fait, c'est quelque chose qui vient masquer l'existence même du travail, qui vient le rendre invisible. Parce que personne, en fait, n'est franchement contre le travail à tant que valeur. Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est le travail terrien, de quoi on parle. Et c'est toujours posé qu'en mettant quelque chose, il faut être pour la valeur travail. Et on accuse les centres d'être contre la valeur travail ou de l'avoir abandonnée. Et au final, on ne parle pas de ce que font les gens, de est-ce que leur travail est utile, plaisant, est-ce qu'il a du sens. Où est-ce qu'il s'arrête? Où est-ce qu'il commence? On ne parle pas de ça et on en reste à une dimension morale et moralisatrice. Il faut être pour le travail. Et ça permet derrière de condamner en fait toute critique de l'organisation économique. Tu montes tel qu'il va comme étant une forme immorale de condamnation du travail en général et une espèce de goût pour la paresse, pour l'inutilité, le parasitisme, l'assistana, voilà. C'est rattaché à plein d'expressions qui sont toujours des expressions morales et qui ne nous disent rien de ce qui est le travail et de ce qui s'y passe et de ce qui s'y joue. Et ça perd de vue surtout que le travail est une activité que l'on vit et que les gens vivent au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi lorsqu'on défend, lorsque les politiques défendent comme ça la valeur travail, en fait, ils parlent de quoi comme travail? Ils parlent de quel travail? On se raconte que par exemple, le travail, la valeur travail, c'est rarement le travail domestique. C'est rarement le travail ménager. C'est rarement le travail des femmes. C'est normal le travail aussi qui peut se faire dans tes associations, dans le travail que peuvent faire tes bénévoles. Non, en fait, c'est le travail. Pris comme le travail pour tes entreprises, on peut se demander, voilà, t'en est-il par exemple tes fonctionnaires, t'en est-il tes gens qui travaillent pour l'État, est-ce qu'ils sont à cette valeur travail ou pas, au vu de certains discours, on a l'impression que non, pas trop, ils ne comptent pas vraiment. Et c'est donc un travail, en fait, qui, la valeur travail derrière, c'est le profit, le travail qui produit du profit. Et le reste est un peu effacé. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient à l'origine de l'expression valeur travail, parce que certains nombres de positionnements politiques consistent à dire oui, mais avant, la gauche, elle était pour la valeur travail, et maintenant, elle l'a abandonnée. Ou certains l'ont abandonné.
Comme fait, Sandrine Rousseau,
voilà,
qui avait parlé
Rousseau,
du droit à la
paresse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la valeur travail, à l'origine, c'est une expression qui vient de Marx et un valui des économistes de l'outil classique, d'un ensemble d'économistes. Il y a aussi David Ricardo, il y a Adam Smith, Jean-Baptiste Say, pas franchement des communistes avec le tout autre l'État, mais qui partagent une même idée, c'est que ceux qui produisent la valeur, ceux qui produisent la valeur, c'est le travail. C'est pas le capital, c'est le travail qui est producteur de valeur. Et Marx reprend cette idée parce que ça lui permet d'affirmer que ceux qui travaillent vraiment, c'est les ouvriers et c'est pas les capitalistes. Et ce sens donné à la valeur travail est complètement oublié dans le débat public.
Ah ben, encore une fois, d'autant plus que on n'arrête pas d'entendre essentiellement le gouvernement et les patrons dire que le travail coûte trop cher. Oui. Donc qu'il faut absolument ne pas augmenter les salaires, baisser ce qu'on appelle les charges, ce qui est aussi extrêmement révélateur.
Ce qui est révélateur, voilà. Et ça ramène toujours, un peu comme l'expression valeur-travail, ça invisibilise le travail. Voilà, la thèse forte de mon livre, c'est cette idée que le travail est de plus en plus invisibilisé. Et en parlant systématiquement du travail pour parler en fait du tout du travail, déjà passé comme un tout et pas comme un gain pour le salarié, déjà on a un point de vue particulier. Mais surtout, on réduit le travail à une créateur économique, le salaire, même pas le salaire d'ailleurs, le tout. Et derrière, on ne se pose pas la question de ce que font les gens. On parle du tout du travail. Déjà, on ne parle pas de la productivité, ce qui conduirait à avoir un peu différemment, puisque la France n'est pas si mal classée en termes de productivité. Et même si elle a un peu baissé dans les dernières années, en fait, c'est lié à l'augmentation te forme d'alternance et te travaille vraiment au sens restreint, en fait, part, jeunes étudiantes et choses comme ça, ce qui fait baisser la moyenne. Mais si on parlait de productivité des gens, on tirait autre chose. Et si on parlait de ce que produit le travail, et de ce que font les gens, et de choses comme les conditions de travail, les incitats du travail, la souffrance au travail, ou le plaisir au travail, on parlerait d'autre chose. Mais en fait, on n'en parle pas parce qu'on le réduit à un tout ou à une durée. C'est aussi, il faut travailler plus. On n'outille pas les travailleurs tout trop cher, on outille les Français ne travaillent pas assez. Et il faudrait toujours travailler plus. Mais ça revient aussi à ramener le travail purement à une question d'heure, à une question de compte, ce qui ne rend pas compte nécessairement de la façon dont les gens l'expérimentent véritablement. Dire il faut travailler plus à tes salariés, à tes travailleurs qui déjà parfois font plus que les sœurs pour lesquelles ils sont effectivement rémunérés, parce que l'infirmière doit rester plus longtemps pour prendre soin d'un patient, parce qu'on lui a pas donné assez de le faire, parce que le plombier ou l'électricien, on lui a donné 15 minutes pour faire une intervention, mais en fait elle lui a pris 30 minutes, mais on lui rémunérera que pour 15 minutes, etc. Tire derrière, il faut travailler plus, en fait, ça masque ce que font véritablement les gens et le travail qui est véritablement réalisé.
Donc, vous constatez une invisibilisation croissante du travail qui tend à le minorer, voire à le nier, et à le vider de son sens. Par exemple, la représentation du travail ouvrier dans les médias est de 2%. Alors, expliquez-vous que les ouvriers représentent 20% de la population active. Et donc, à votre avis, pourquoi cette invisibilisation du travail? Quel est son objectif? Pourquoi est-ce que c'est fait?
Alors, il y a plusieurs mécanismes. Il n'y a pas que de l'étationnalité derrière. C'est pas toujours les médias qui veulent masquer le travail. C'est parfois qu'ils n'ont plus les moyens de le voir facilement. T'as le cas du travail ouvrier, par être simple. L'une des transformations de ce travail ouvrier, les ouvriers sont loin d'avoir disparu à France. Mais par contre, ils sont tentés à travailler dans des unités de travail qui sont plus petites. Au crat, usine de l'automobile, au sud, c'était les entrepôts d'Amazon et de la logistique. Et ça fait une transformation importante en termes de visibilité, parce que lorsqu'on avait des usines qui pouvaient compter 500, 1000, 10 000 ouvriers parfois, lorsqu'elles se mettaient à grève, c'était extrêmement visible. Lorsque vous savez, tes entrepôts d'Amazon ou d'autres entreprises de la logistique, qui font un travail très important, qui est au cœur véritablement du capitalisme contemporain. On voit que certains spécialistes parlent d'une révolution logistique. Ça serait l'activité centrale du capitalisme aujourd'hui. En fait, c'est tes entrepôts qui vont compter 40, 30 personnes, parfois moins. Et lorsqu'ils se mettent à grève, déjà, c'est plus compliqué à organiser. Parce que pour les syndicats, pour organiser une grève, au lieu de juste tracter à la sortie de l'usine, vous allez avoir tout le monde qui va sortir, vous allez avoir un petit entrepôt, il va falloir être sur plusieurs sites, tout le monde ne va pas commencer à la même heure, tout le monde ne va pas finir à la même heure, parce que les relations de travail elles-mêmes, les conditions de travail se sont individualisées. Et du coup, la grève, elle est plus difficile à avoir, et puis elle est moins visible, elle est moins immédiatement visible. Du coup, on voit plus difficilement ce travail. Il est plus difficile à voir. Et les médias ont effectivement du tout plus de mal à en rendre compte. On va rendre compte du travail ouvrier, notamment, surtout sur un monde. Lorsqu'il y a en fait un plan social, qui est déjà une
jolie, drôle d'expression, oui.
Voilà, c'est un licenciement massif. Ça serait peut-être plus juste de le dire comme ça. Mais
c'est sauvegarde de l'emploi, si je
voilà,
me souviens bien.
Voilà, sauvegarde de l'emploi, ce genre de choses.
Un euphémisme.
Voilà, ça euphémise beaucoup. De là, parler de novlac à la Orwell, bon, peut-être que c'est plus pertinent que pour d'autres choses.
Absolument.
Mais ça, on va voir, on va aller là filmer, mais le reste du temps, c'est quelque chose qui est assez difficile à introduire. Mais d'autre part, je pense qu'il y a effectivement une attention, ou en tout cas un intérêt à invisibiliser le travail, mais ce n'est pas une transformation récente. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre au capitalisme et qui fait partie des contradictions du capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois le capitaliste qui met à valeur le travail, et puis qui met au travail énormément de chats, et t'as sa définition particulière du travail, et qui en même temps, toi, ça cesse le cacher. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'ouvrier qui crée, c'est pas le travailleur c'est le capitaliste. C'est Elon Musk qui met une voiture à l'espace. C'est pas ces Tyson et ces Tyson et ça toute sa teinte, te travailleur, te petite main, tu auras tout ça possible. C'est
Le discours sur LVMH, par exemple, qu'on entend énormément.
Tout à fait.
LVMH. Que Bernard Arnault est un héros parce qu'il a mis au travail, je sais pas combien de gens.
Parce que souvent même, il a fait plus de mettre au travail. C'est lui qui a fait lui-même. Oui. Je me souviens, pendant le confinement, pendant la pandémie, Bernard Arnault avait fourni à la France du gel hydroalcoolique. Tout seul, avec ses petites mains, rien que t'as l'expression, il y a quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas pour moi de dire que quelqu'un comme Bernard Arnault ne travaille pas, ou que Elon Musk ne travaille pas, même si lui pose beaucoup d'autres problèmes par ailleurs à ce moment. Le travail qu'il réalise, parce qu'il participe ça tout à tes réunions, il prend tes décisions, il lise tes documents, bref, il doit bien faire certaines choses. Mais il n'y a aucune métrique, il n'y a aucun moyen de justifier facilement les différences de revenus entre eux pour le travail qu'ils ont fait avec un ouvrier, par exemple. Si on dit qu'ils travaillent beaucoup, l'ouvrier il travaille beaucoup aussi. Si on dit qu'ils prennent des risques, alors chez lui, il n'y a pas l'OTA, que Elon Musk a perdu plusieurs centaines de milliards de dollars.
Oui, en valorisation boursière.
Voilà, valorisation boursière. Donc, il prend des risques. Un atata, il n'est pas à la rue. Un ouvrier qui perd 2000 ou 3000 euros, il peut se retrouver à la rue. T'as certains cas pour tes personnes en situation fragile. Donc, bon. À terme de risque, ça marche pas non plus. À terme de difficulté, tu travailles. Je veux bien croire que tout ça est très difficile, mais le métier d'un ouvrier ou de plein d'autres professions est tellement difficile. C'est difficile de le justifier. Et pourtant, ça existe. Et donc, pour que ça soit justifié, il faut invisibiliser le travail des travailleurs. En fait, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « Qui travaille vraiment ?» parce que c'est une question centrale à laquelle on ne peut pas échapper de répondre lorsqu'on s'intéresse au travail. Le Marx, dont je parlais tout à l'heure, nous dit ceux qui travaillent vraiment, c'est les ouvriers. Et puis, les gras patrons, et ceux depuis très longtemps, expliquent sur plein de façons différentes et par plein de médias, ils sont beaucoup écrits de biographies, ou fait écrire des biographies, des choses comme ça, expliquent non, en fait, c'est nous qui travaillons vraiment. Et vous ne faites rien.
Mais c'est vraiment très intéressant, cette question-là, justement. Donc, cette invisibilisation du travail participe-t-elle de la lutte des classes ? Celle des classes sociales aisées contre les classes sociales populaires, s'agit-il d'une stratégie qui vise précisément à contourner, à vider de son sens, à combattre la lutte du prolétariat contre l'exploitation capitaliste? Et évidemment, on pense à Warren
Buffett,
ce riche homme d'affaires américain qui a déclaré dans une interview le 19 juin 2005 sur CNN, il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte et nous sommes en train de gagner.
Oui.
Est-ce que c'est de ça dont il s'agit ?
En tout cas, ça fait partie. C'est peut-être pas la seule modalité de la lutte des classes, mais ça en est une. Cette invisibilisation du travail, c'est l'une des modalités de la classe dominante vis-à-vis des classes dominées pour justifier à la fois le système économique et pour imposer tes formes de domination. Et ce n'est pas du tout une exagération complotiste, conspirationniste ou je ne sais quoi. La sociologue Danielle Linhart montre très très bien comment, en fait, l'individualisation du travail, c'est-à-dire le fait qu'au lieu de faire un contrat pour une masse de travailleurs, on va faire des contrats individuels avec des horaires variables pour chacun, avec des sortes de début et de fin, avec des avantages où on va chacun négocier son salaire. Elle montre que ça apparaît après 1968, parce qu'en mai 68, le patronat français a eu très peur, parce qu'il a vu une trêve générale. Et en mai 68, on le sait bien, c'était pas juste les étudiants, c'était aussi les ouvriers. Donc, ils ont eu très peur, et à ce moment-là, ils se sont poussés, et ça a été poussé, comme un objectif de management, il faut casser les collectifs de travail. Et pour casser les collectifs de travail, on individualise le contrat de chacun. Et on fait des entretiens individuels, annuels, de performance, qui en plus vont être menés par quelqu'un qui, statutairement, doit ne pas connaître le travail de la personne à qui il s'adresse. De telle sorte qu'on ne peut pas parler du travail, on doit parler d'autre chose. Parler performance, carrière, évolution, etc. Mais on ne va pas parler du travail lui-même et de ses difficultés. Et le but, c'est de créer un face-à-face entre le travailleur d'un côté, l'entreprise de l'autre, sa intermédiaire et sa syndicat. Et la lutte que mène Jeff Bezos, par exemple, tes marques, tes entreprises comme Starbucks aussi, contre la syndicalisation.
Qui sont des luttes extrêmement virulentes et violentes. Hein.
Très, très virulentes et très violentes. Et qui peuvent venir. Amazon ferme tes entrepôts entiers au Canada parce que ceux-ci sont trop syndiqués pour les déplacer ailleurs. C'est de la lutte. Et le but, c'est en fait d'empêcher d'avoir une représentation du travail. Les syndicats, ça a été l'une des modalités qui rend le travail visible, le travail des travailleurs visible. Le mouvement ouvrier a été ce qui a permis de mettre en avant l'existence de ce travail et de d'éviter qu'il soit invisibilisé. Avec l'épuisement de ce mouvement, avec les stratégies des entreprises, des grands patrons pour essayer de le défaire, eh ben on a cette invisibilisation du travail.
Et il y a aussi, dans votre livre, vous dites aussi que ce qui concourt à l'invisibilisation, c'est la difficulté maintenant de raconter ce qu'on fait. C'est-à-dire que peut raconter sur sa vie de travail quelqu'un qui bosse dans un entrepôt d'Amazon.
Oui,
qu'est-ce qu'il fait ?
C'est plus difficile. Et encore, c'est pas forcément le plus difficile, mais effectivement, c'est difficile pour lui, parce que si on lui demande à la fin de la journée qu'est-ce que tu as fait, ben, j'ai déplacé tes cartons. J'ai déplacé ton point A, un point B. L'ouvrier de l'automobile, pour reprendre cet exemple, il pouvait au moins montrer même une voiture à la rue et dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Peut-être qu'il n'avait pas fait cette voiture-là précisément, mais voilà ce que je fais. Le travailleur de la logistique, son travail est déjà plus difficile à voir. Mais alors, si on va sur d'autres professions, ça peut être très difficile de rendre compte de ce que font, fait le travail de chacun. Une personne qui travaille dans ce service des ressources humaines, par exemple, parfois, expliquer ce que fait son travail, expliquer même assez sa face, c'est difficile. On dit, ben, je vais au bureau, je travaille, j'ai des réunions, et même si on rentre, si on rentrait aujourd'hui, tu as une grande tour de la défense, qu'est-ce qu'on verrait ? On verrait déjà sur tes ordinateurs, en train de passer tes coups de fil, en train de faire tes présentations PowerPoint. C'est pas pour dire que ces personnes ne travaillent pas, elles font parfois des choses très importantes. Les services de ressources humaines, parfois, ça se, ben, les personnes ne sont pas payées à la fin du mois. C'est un pétard, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est difficile de rendre compte.
Ça recoupe ce que racontait David Graeber dans son célèbre bouquin sur les bullshit jobs, qui sont ces métiers de cadre. Parfois on ne sait pas, de consultant, on ne sait pas quoi.
On ne sait pas. Ce qui est intéressant avec cette idée de bullshit job, c'est que lorsqu'on demande, il y a sur des trades sachets qui ont été faites, sur en Europe, aux gens, est-ce que vous avez l'impression de faire un bullshit job sur votre travail, ça ne sert à rien. Il y a une minorité de gens qui disent que ça ne sert à rien. Par contre, le sentiment que les centres font un travail comme ça, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, parce qu'on ne les voit pas travailler, parce que c'est difficile simplement de voir visuellement ce qu'ils font, parce qu'une grande partie de l'activité déjà aujourd'hui passe devant un ordinateur.
C'est dématérialisé.
Voilà, et pour toute chose, sont dématérialisées. Et toujours, on a l'impression que même si on est convaincu que soi-même on fait un travail utile, on a facilement l'impression que les centres font un travail qui ne sert à rien. Mmh. Et ça sera très difficile, toutes tes formes de solidarité, tes formes de mobilisation collective, etc. Mmh. On est dans une situation où, parce qu'il est difficile à voir et difficile à dire, le travail devient difficile à défendre et difficile à faire exister.
On reviendra sur cette question d'individualisation dont vous avez parlé. Mais là, je vais vous poser une question sur un autre des aspects, justement, de la façon dont on parle du travail. Ce discours sur le travail est quand même caricatural. Et d'ailleurs, j'ai repris l'exemple dans votre livre. La France qui s'élève tôt, celle de Rungis, qui est chère aux politiques. Quelle est la fonction de cette caricature du travail?
Je pense que ça sert déjà... la phrase « qui se lève tôt », c'est... C'est-à-dire que lorsque les politiques veulent parler du travail à France, lorsqu'ils veulent rencontrer les travailleurs, et ben, ils peuvent, en la rencontre de la France qui se lève tôt, s'ils laissent de côté ben, la France qui se lève tard parce qu'elle travaille tard, parce que la caissière de supermarché qui doit être là jusqu'à 22h, elle ne commence pas forcément à 8h du matin.
Le travail donc, de nuit voilà, des infirmières.
Le travail de nuit, tes infirmières, tes soignants, de plein de personnes. Et puis, il y a aussi les personnes qui se lèvent tôt mais, pour amener les safs à l'école, pour prendre soin de la maison, voilà, tout ce qui est travail domestique. Et en fait, cela, on ne parle pas. Et en plus, on se rend, lorsqu'on veut raconter la phrase qui se lève tôt, c'est pratique, elle a une adresse, c'est Rungis.
Ah oui. Alors, c'est tous les politiques viennent à Rungis.
Oui, les politiques, Sarkozy oui. l'a fait, Emmanuel Macron l'a fait, François Hollande l'a fait, Manuel Valls l'a fait. Enfin, maintenant, on va à Rungis. Alors, c'est très bien, Rungis, et l'industrie alimentaire, les restaurants, etc. Mais c'est représentatif d'une toute petite partie du travail aujourd'hui. Et le reste des travailleurs, ben, on ne les voit pas. Et en fait, ça donne une représentation du travail qui est finalement acceptable politiquement. C'est la représentation de travail. Alors, déjà, qui est visuellement visible, ce sont des personnes qui vendent tes fruits et tes légumes, qui correspond à une certaine vision aussi un peu réactionnaire de la France, du terroir, etc. Et puis tu travailles, tu es plutôt un travail de petit patronat, petit commerçant. Laisse de côté une grande partie des salariés, qu'on va beaucoup moins voir. Une partie des saint-épatins, mais des auto-entrepreneurs, par exemple. Si on voulait aller voir la phrase, une partie de la phrase qui travaille aujourd'hui, pourquoi ne pas aller voir, par exemple, les livreurs Uber qui intègrent des restaurants. Ils sont là aussi, on peut les filmer, on peut les rencontrer. Mais eux, on va plus rarement les voir. On va voir, en fait, une représentation de style travail qui est une représentation presque folklorique.
C'est une caricaturale.
Voilà, caricaturale. Ce qui veut pas dire, une fois de plus, que les personnes qui travaillent au registre ne travaillent pas ou ne font pas quelque chose d'utile. Mais ça ne recouvre pas toute la diversité de style travail aujourd'hui. Là.
On va faire une coupe, hein. On va écouter une chanson. Voilà, de Henri Salvador. Le travail, c'est la santé.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Moi plus tard ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot et tous ensemble là. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui sans cesse après le travail, faut être fou. Moi le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé. Tu parles, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Voilà, comme une fois, de feignant, là.
Le travail, c'est la santé.
89.4,
grand soir du mardi, émission du groupe La Rue de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître. Nous recevons pour cette deuxième partie d'émission Denis Colombi qui vient nous parler de son ouvrage Qui travaille vraiment, donc sur la question du travail.
Aux éditions Payot.
Aux éditions Payot, absolument. Donc, alors, où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Vous avez déjà parlé tout à l'heure de l'individualisation du travail. Est-ce que c'est un des derniers avatars du capitalisme à mutation? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que diviser, atomiser, c'est fait pour régner?
Si, c'est fait pour ça, mais ça a été passé par ça, comme par le patronat français ailleurs, on individualise le travail, l'objectif est à te casser au maximum le collectif de travail. Ce monde idéal capitaliste, il y a le travailleur, et il y a l'entreprise, il n'y a pas de corps intermédiaire, il n'y a pas de collectif. Ça permet aussi de mettre le travail, les travailleurs, facilement en mouvement. On peut les déplacer d'une fonction à l'autre, d'une tâche à l'autre, sans qu'ils soient attachés à un groupe, à un collectif, où ils puissent développer des cités ensemble. Si on laisse les travailleurs trop longtemps ensemble, ça peut poser des problèmes. Et c'est une stratégie qui est ancienne. Une partie du taylorisme reposait sur cette idée-là, c'est-à-dire on va retirer au travailleur son métier pour lui dicter très précisément la tâche qu'il doit faire.
Du sens même de son travail, voilà, en fait.
Pour le réduire, et c'est Friedrich Taylor, donc le passeur et le créateur du taylorisme, donc cette division extrême du travail, le passait vraiment comme ça. Il faut réduire l'initiative de l'ouvrier, parce que de toute façon, l'ouvrier, dans sa vision, la seule chose que peut faire un ouvrier, c'est être paresseux. Si on le laisse faire, il ne va pas travailler, donc il faut l'y obliger. Et pour ça, on va lui dicter très précisément son travail. Ça devient plus difficile au fur et à mesure que la technologie réclame des travailleurs qui ont des tâches qui ne peuvent pas être parcellisées à un geste élémentaire. Puisque maintenant, on peut les remplacer par des machines, cela. Mais on va essayer quand même de les rattre le plus contraint possible, d'éviter qu'ils ne développent leurs propres normes de travail, qui seraient des normes liées à un métier, liées à un idéal de la façon de travailler. Donc pour ça, on va individualiser le travail. Ça permet d'affaiblir le travail et toujours le rendre moins cher. Voilà,
Il y a aussi une chose, alors là, c'est dans le bouquin, mais moi, c'est une chose que j'ai expérimentée dans ma carrière, c'est qu'il y a eu, moi, j'étais journaliste, c'est qu'il y a eu une inflation du management, de postes de chef, sous-chef, demi-chef, chef de ceci, chef de cela, en même temps qu'il y avait une diminution des gens qui faisaient les choses, c'est-à-dire qui écrivaient les articles, et il y avait de plus en plus, et je crois dans beaucoup de secteurs professionnels, une injonction en fait à mal travailler. Et moi j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont dans un état de souffrance éthique vraiment dur, parce que on a l'impression qu'ils font bien leur travail en dépit de ce qu'on leur demande.
Tu peux préciser, ça veut dire mal travailler. Quelles étaient les injonctions?
On a par exemple l'exemple de l'infirmière qui est dans le bouquin, où d'une certaine manière on lui demande de mal travailler.
On va lui dire, vous savez, 5 minutes par patient.
C'est ça.
Mais elle sait, en fait, t'as la réalité du travail, voilà, on voit que la personne, il faut pas juste lui faire une piqûre.
Voilà, que bien travailler, c'est s'asseoir au chevet du malade, etc.
Et
on lui interdit de le faire.
Et c'est en fait, on réduit comme ça le travail c'est la différence que analyse les sociologues, notamment sur la sociologie clinique, entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est celui qui est donné par
la fiche de poste.
Voilà, par la fiche de poste, et touche par un management, et touche par une administration, une organisation, une bureaucratie, qui vise à dire très précisément comment il faut travailler, à tout mesurer, en fait, pouvoir mesurer la performance, et éviter surtout qu'il y ait des tâches qui soient réalisées, qui ne servent pas directement, soit le profit, soit ce qui est considéré comme de l'efficacité. L'infirmière ne génère pas nécessairement du profit au sens, pour l'instant. Mais en tout cas, et tout ça, c'est le travail prescrit. Et ce travail prescrit est presque toujours différent du travail réel, c'est-à-dire du travail qu'il y a effectivement à faire. Et tout l'enjeu, ça va être souvent d'obliger le travailleur à faire le travail réel tout en prescrivant le moins possible, tout en réduisant au maximum sa tâche réelle. Ce qui permet de visibiliser une grande partie du travail. Le travail de l'infirmière, par exemple, c'est le travail, c'est faire la piqûre. Mais c'est pas prendre soin du patient, rester avec lui, discuter pour s'assurer qu'il aille bien.
Donc c'est parfois... c'est un travail technique en fait.
Voilà, on résume ça, un travail technique. On trouve ça aussi, ça s'illustre, je passe très bien avec tout ce qui est service public, parce que c'est là où la différence est peut-être la plus triade. On va côté, si on regarde le travail des enseignants, alors on les renvoie toujours au nombre d'heures de cours faites. Déjà, on a beaucoup de gens au Tumal à accepter qu'il y ait tout un travail de préparation. Mais même au-delà de ce travail de préparation de cours, ben voilà, on reste 5 minutes pour parler avec un élève à la fin du cours. C'est pas à la fiche de poste, c'est pas reconnu, mais il faut le faire parce que c'est peut-être la condition pour que l'élève se mette au travail, pour qu'il comprenne, pour qu'il soit motivé, ou parfois pour qu'on puisse signaler qu'il a un problème plus grave.
Et là, le discours ambiant, c'est de dire que les profs sont des feignants.
Voilà, ça c'est un discours ancien. Et qui reste toujours prégnant. Ce sont des feignants, ils ne font rien. Nicolas Sarkozy avait fait une petite sortie là-dessus, un peu avant de recevoir son bracelet électronique. Voilà. on a ce discours étudié et qui ramène toujours l'enseignant ne travaille que le nombre d'heures de cours qui est étiqueté. Et de toute façon, ça c'était le discours de Nicolas Sarkozy aussi, c'est de toute façon le travail à maternelle, hein, voilà, c'est pas crachant.
C'est du gardiennage.
Voilà, c'est du gardiennage, c'est des choses comme ça, c'est pas très difficile. Alors qu'en fait, c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et ça se retrouve pas plus que t'as le cas des enseignants, mais c'est le cas aussi pour l'infirmière aussi, parce que ce sont des métiers très féminisés. Et toi, c'est tu travailles de femme. Et travail
donc
de femme,
ça ne compte pas.
Ça ne compte pas vraiment, parce qu'on considère qu'elle travaille avec le cœur, elle travaille pour le bien-être des gens. Et c'est un travail qui est vu comme secondaire par rapport au travail masculin, qui lui est vraiment le travail producteur, et puis le travail qui doit rapporter.
On est bien d'accord.
Voilà. Et comme le travail, d'une façon générale, c'est féminisé, et que les femmes ont pris... au prix d'un certain nombre de luttes, pied à le monde du travail de l'emploi, et bien, en même temps, elles sont amenées, elles n'ont pas voulu, mais on a amené avec elles une invisibilisation du travail.
Et oui. Et là, on voit un exemple qui est ahurissant avec les histoires de Musk, qui a donc sommé les fonctionnaires américains de dire ce qu'ils ont fait comme travail, en 5 points, dans une semaine.
C'est en demain,
c'est
comme ça.
C'est ça, sinon d'être viré.
Avec l'idée que, déjà, ça doit pouvoir se résumer à 7 points, ce n'est pas toujours facile. Et d'autre part, que la seule personne, finalement, qui peut décider si c'est bien ou pas, c'est Musk ou son équipe. Mais il avait échappé ça en arrivant, en reprenant le contrôle de Twitter. Il avait demandé aux développeurs de Twitter de t'imprimer tes lignes de code. Tous les personnes qui travaillent à l'informatique avec Chiche en étistuté se sont tapés la tête contre les murs. Parce que de toute façon, ce n'est pas les lignes de code. Voilà, c'est pas forcément la part la plus importante. Tu travailles, tu es un ingénieur ou autre. Ça peut être juste la partie finale où on va faire quelques lignes, mais il y a toute la réflexion dessus, t'apportes sur ce qu'on fait. Et donc, on envoie le message que si quand tu as le travail, c'est une toute petite partie de tout ce que vous faites à côté. Est inutile. Et il y a un paradoxe à plus là-dessus, c'est que de l'autre côté, on a une inflation, comme on le disait tout à l'heure, tes managers, tes niveaux hiérarchiques, tant la fonction essentielle est souvent d'assurer la mise au travail des centres. Et le contrôle du travail, et la motivation au travail, etc. Ça va jusque, l'être simple, un peu caricatural, ça a été à la mode il y a quelques années, c'était le happiness manager. T'as été sa entreprise déjà, tu étais chargé de s'assurer du bonheur au travail. Mais le bonheur au travail, c'était pas de mater plus de salaire, c'était s'assurer que, voilà...
C'était d'organiser des séances de massage,
éventuellement... D'organiser des choses comme ça. Mais qui sont là, en fait, pour rendre le travail acceptable, et ça c'est une tâche... qui est attribué, en même temps qu'on réduit, qu'on minimise les tâches réellement réalisées par les personnes qui, au final, font le produit final ou le service final qui est censé vendre ou produire l'organisation. Donc, on a ce paradoxe d'un travail qui, à la fois, de plus en plus invisibilisé dans sa partie qui est a priori la plus utile et une inflation des efforts qui sont nécessaires pour le rendre possible.
Donc obligatoirement une souffrance qui ne va qu'en croissant.
Tout à fait. La souffrance au travail, elle est à partie liée. Alors, il y a évidemment plein de situations qui produisent de la souffrance. La porte-charge lourde, produit
tâche. Je parle de la souffrance éthique.
Voilà, la souffrance éthique, c'est vraiment la distance entre le travail prescrit et le travail réel. À la fois lorsqu'on me demande de faire un travail que je n'ai pas le temps de faire, et d'autre part lorsqu'on me demande de faire un travail alors que le travail tel que je devrais le faire et que je sais que je dois le faire n'est pas possible. Et c'était souvent les collectifs de travail qui portaient des normes sur la façon de travailler, sur la façon de bien travailler. Les ouvriers, si on en revient à ça, avaient cette conception de comment est-ce qu'on travaille bien, comment on fait un bel ouvrage, comment on fait quelque chose qui a du sens. Même t'as le travail le plus artisanal ou le travail d'ouvrier. En retirant en fait ces collectifs de travail, ça peut être simplement d'éviter que les jeunes soient formés par les anciens, parce qu'ils pourraient leur transmettre des façons et des normes de travail particulières, et bien on réduit au maximum le sens du travail et la capacité de ces collectifs à définir eux-mêmes le travail.
Donc on voit vraiment, encore une fois, qu'on vit dans un mensonge permanent, en fait. La fameuse valeur travail, alors que le travail devient de plus en plus invisible, etc. Il y a un autre truc aussi qui est complètement paradoxal. Ça fait quand même des années qu'il y a des penseurs, comment on appelle ça, les gens qui pensent le futur, voilà,
futurologues.
Qui parle de la disparition du travail. Là, il y a l'avènement, enfin, on nous dit, de l'intelligence artificielle, qui va remplacer des tas de gens, etc. Donc, en même temps qu'on nous parle de la disparition du travail, en tout cas la disparition d'une bonne partie du travail, on vous dit qu'il faut travailler plus.
Oui, on a ça.
Donc c'est encore une fois une injonction paradoxale.
C'est très difficile aussi. À comprendre pour les gens. On leur dit effectivement, le travail est appelé à disparaître, et d'autre part, il faut que vous travailliez plus longtemps, que vous travailliez plus et vous ne travaillez pas assez. Et ce discours, ça cesse de le travail va disparaître, les intelligences artificielles, les nouvelles technologies. C'est un discours, une fois de plus, qui est ancien. Là, il prend la forme des intelligences artificielles. On le tient au moins depuis. On la retrouve au moins depuis les années 1990, si on avait déjà cette question-là, mais on le retrouve plus avant. Vous savez, il y a ça qui était déjà évoqué par John Maynard Keynes, l'économiste, qui pensait qu'à la fin du XXe siècle, on n'aurait plus à travailler que 3 heures par jour. Et vous savez exactement la même chose chez Paul Lafarge, qui a le 3 à la paresse, qui, pareil, on n'aura plus qu'à travailler un jour. On devrait, lui, têter son époque, et on pourrait ne travailler que 3 heures par jour. Et eux le voyaient de façon plutôt positive, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette disparition du travail, aujourd'hui, elle est vue plutôt avec inquiétude. Elle est vue plutôt comme quelque chose qui va produire des masses inutiles au lieu de produire des masses de personnes
plus libres. Surtout exploitables.
Et sur les intelligences artificielles, ce qui est intéressant, c'est que toute cette technologie, en fait, elle a... pas que l'intelligence artificielle, mais toutes les technologies du numérique, en fait, elles reposent très largement sur du travail humain, sur une grande partie du travail humain. ChatGPT, il faut la traîner. Il faut lui faire mener des conversations. Et il y a des travailleurs, il y en a eu notamment des travailleurs indiens, très très peu payés pour réagir, pour discuter, pour former l'outil. Et toutes les intelligences artificielles reposent sur cette forme de travail.
Parfois, c'est vraiment les invisibles pour le coup.
Ils sont non seulement vraiment invisibles parce qu'ils sont très très mal payés, ils sont payés à la tâche, c'est du tâcheronnage.
Ils sont très loin,
c'est
ils sont très très loin. Oui.
Ils sont loin et il y a même peut-être encore plus invisibles, c'est ceux qu'on ne voit pas du tout. C'est-à-dire que, parce que ce n'est pas passé comme tu travailles. ChatGPT a aussi été formé sur les pages Internet qu'on a strappées et qu'on a mis à la machine. Donc, lorsque je complète, lorsque je fais un statut sur Twitter, lorsque j'ai fait un statut sur Facebook, lorsque j'ai mis mes photos de vacances, et ben, en fait, j'ai nourri des intelligences artificielles qui ont permis de fonctionner. Et ça, c'est pas passé comme du travail, même par moi qui le fais. C'est pas passé comme du travail. Et pourtant, ça a une valeur économique que d'autres vont exploiter. Et les artistes, à ce moment, les dessinateurs notamment, sont très satisfaits de voir ces intelligences artificielles pour ce qui est du graphisme. Parce qu'en fait, c'est nourri avec leur travail, qui sont mis sur Internet depuis longtemps pour se faire connaître, pour vendre tes webcomics, des choses comme ça. Et on vient en fait les déposséder pour nourrir une machine qui sera appelée à les remplacer, en plus les remplacer très mal. Je ne pense pas que ça continue à les remplacer. Ce qu'on voit plutôt pour l'instant, c'est que ces technologies, elles remplacent rarement les travailleurs. Par contre, elles s'intensifient le travail. Elles le rendent plus difficile. Elles le déqualifient aussi. Elles en retirent son sens et son intérêt. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir le sens dans lequel ça se fait. Si Paul Lafarge ou Keynes ou d'autres rêvaient d'une société où la technologie nous libérait du travail, c'est esquisser toutes les tâches pénibles, les tâches qui ont peu de sens, on pourra les faire par des robots. Et aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers une société où, en fait, les robots, les intelligences artificielles, ChatGPT, Midjourney, etc., feront les tâches qui ont du sens. Ils écriront des scénarios de films, ils feront des films.
Les scénarios, même la médecine.
Ils feront tout ça. Oui. Et par contre, les tâches qui sont pénibles, qui sont dures physiquement, qui sont tâches rares, elles resteront du travail humain. C'était une artiste qui tissait ça sur un réseau social. Je n'ai malheureusement pas noté son nom. Mais tu touches à Visipiste, le travail des femmes, c'est mal. Mais elle tissait qu'elle rêvait d'un futur où il y aurait un robot qui passerait l'aspirateur et elle ferait du dessin. Et là, on va vers un futur où le robot va faire le dessin et elle passera l'aspirateur. Et
oui, oui.
Pas,
voilà.
Oui, ça, c'est terrible.
Et alors, dans votre livre aussi, vous insistez sur l'importance... Bah de rendre le travail visible comme forme de résistance.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire, oui, tout ce qui va pouvoir faire exister le travail, le rendre visible, le rendre existant, est une forme de résistance. Comme je disais, qu'est-ce qu'a fait Marx ? Il a fait plein de choses. Mais l'une des choses qu'il a fait, c'est de dire, c'est les ouvriers qui travaillent. Et le mouvement ouvrier, ensuite, s'est structuré autour de cette idée, c'est nous qui travaillons. C'est pas les centres, c'est nous qui travaillons, c'est pas les capitalistes. Aujourd'hui, lorsqu'on voit justement, pour revenir à cette idée de valeur travail, lorsque certains reprennent le thème de la valeur travail, c'est pas pour dire c'est nous qui travaillons contre les capitalistes qui n'existent pas, qui ne travaillent pas, pardon, qui existent. Mais qui ne travaillent pas, c'est souvent pour dire c'est nous qui travaillons et c'est pas les assistés, c'est pas l'assistanat, c'est pas tous ces parasites, ces choses-là. C'est une inversion complète de ce que t'es fait avec Marx. Et donc, il faut arriver à ramener le travail sur le devant de la scène. Et là, je pense qu'on peut regarder du côté de ce qu'ont fait les féministes. Parce que qu'a fait le mouvement féministe, une fois de juste plein de choses, mais l'une des choses, c'est qu'il a fait reconnaître que le travail domestique, c'est du travail. Quelque chose qui était nié profondément dans son existence en tant que travail, elles sont arrivées au moins à imposer que ça soit vu comme tu travailles. Alors, il y a encore du chemin à faire. Il s'agit pas de dire la répartition est loin d'être égalitaire et le travail domestique n'est pas forcément rémunéré, n'en parlons pas, mais en tout cas jugé ou reconnu à sa juste valeur. Mais au moins, il est plus difficile aujourd'hui de dire que c'est pas du travail, que ça te mate pas tes efforts, ça te mate pas de l'énergie. C'est l'intérêt, en fait, de voir, comme le dit la sociologue Maud Simonet, les travailleurs au féminin neutre, c'est-à-dire de se dire que la forme de base de l'exploitation au travail, elle ne se trouve pas spécialement à le travail ouvrier, mais elle se trouve à le travail féminin. Et donc, c'est un travail qui est un port invisibilisé. Et des stratégies, les féministes ont arrivé à faire exister ce travail, comme parfois, refusent de le faire. la grève, ça a marché pour elle, ça marche bien pour les travailleurs, pour le mouvement ouvrier, ça peut toujours marcher, ça se montre toujours efficace en termes de moyens de lutte. Le valorisant aussi, y compris en termes monétaires, même si ça pose des problèmes.
Donc ce travail doit être payé quand il est fait par quelqu'un d'autre.
Il doit être mesuré, il doit être... et on peut réclamer, un certain nombre de féministes avaient réclamé, ça a toujours fait pour toutes tes pattes à le mouvement féministe, mais avaient réclamé le PMA du travail ménager. Dire voilà, mais c'était un moyen de te dire si pour elle, te dire pas bah, si jamais on est payé, et ben on peut aussi tourner celle qui se tuer, tu sur le travail, si tu travailles, qu'est-ce qui se passe si on est blessé,
ces différentes formes d'invisibilisation, d'individualisation que vous développez longuement dans votre ouvrage, est-ce qu'on ne peut pas dire en fait qu'il s'agit du maintien d'une forme d'aliénation? Parce que, évidemment, ça sert le capital. Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est une forme d'esclavage moderne, rampant ?
D'aliénation, oui. D'exploitation, je pense que ça permet de donner du sens à cette idée d'exploitation qui, pour un certain nombre de chats, ça peut être assez vague. Hein. Ça peut être... les chats se plaignent d'être exploités, ça veut juste dire qu'ils travaillent pour tout. Non, l'exploitation, mais vraiment, revenant une fois de plus à Marx, c'est l'idée qu'il y a une partie du travail que l'on effectue qui n'est pas payée, qui est du travail gratuit.
Oui.
Donc, le travail domestique féminin, autour desquels ont travaillé les féministes, c'était du travail exploité parce que fourni justement à titre gratuit, sa compensation, et à considérer c'était naturel qu'elles le fassent parce que voilà, tu ne te mettais pas de chopetas parce que ce sont tes femmes, toi, qu'elles sont ça, hein, voilà, tu as les gènes, etc. On a la même chose, je pense, qui se passe, tu as une partie du travail. Enfin, t'as le travail sur ta peau. Il y a toujours cette idée que on paye le travailleur, on rémunère le travailleur moins que ce qu'il coûte, parce que moins que ce qu'il produit comme richesse.
Forcément, pour pouvoir. Forcément. Il y a la plus-value.
C'est l'exploitation.
Voilà, oui.
Et on peut voir comment se joue comment se produit cette exploitation, je pense. Notamment, t'as un ensemble de motivation au travail qui promet une rémunération différée. On te mate aux stagiaires, on te mate aux chats, t'as le monde des start-up. Travaillez aujourd'hui parce que demain, plus tard, vous aurez un CTI, parce que ça vous fera de l'expérience. Parce que lorsque l'entreprise, lorsque la start-up deviendra, voilà, explosera, vous serez rémunéré à
nature. Et dans les milieux, d'ailleurs, c'est glamour, comme dans le. Moi, je connais bien le journalisme où beaucoup de gens, ça fonctionnait comme ça.
Oui,
travailler pour rien.
T'as le journaliste, t'as les universités, vous retirez tes universités, tous les vacataires qui attendent d'avoir un jour à poste. Ça fonctionne plus. Il n'y a plus de recherche en France. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Donc, c'est une grande partie du travail. Et puis, on te mate aussi, de plus en plus, aux gens de travailler comme les femmes à l'espace domestique, par amour. Alors, amour, ici, au sens très large, ça peut être l'amour de son prochain. Hein. Les soignants et soignantes, pendant la pandémie, on leur a dit, vous travaillez plus, mais c'est pour être
service. C'est tout le travail associatif.
Le travail, une partie qui est parfois complètement bénévole, mais il y a aussi une part de salariat dans les associations et avec des situations qui sont parfois difficiles parce que dans tes chats, ils travaillent beaucoup et plus que ce qui est prévu parce que c'est pour une bonne chose. Donc, c'est difficile de refuser. Mais même dans ce milieu, je parlais des start-up, on te met aux start-up, aux start-upers, aux travailleurs de tes start-up, de travailler par passion, par goût, par plaisir. Les entreprises du jeu vidéo fonctionnent à partir comme ça. On s'est approché, tu es excité, tu es nouveau, c'est quelque chose de bien. Implique-toi aussi par passion et puis ça payera peut-être plus tard. Et ça, ben oui, c'est de l'exploitation. Te laisse la vache. Bon,
c'est du cynisme absolu, en fait.
C'est du cynisme et en même temps, il faut envisager qu'il y ait certaines personnes, par exemple, qui promeuvent ce discours-là et qui croient eux-mêmes. Et fait, ils se disent « Ah, c'est par passion, etc. » déjà, Marx le notait, hein, le capitaliste est aliéné, lui aussi, par le capital.
En même temps, on ne va pas pleurer. Hein.
Non, on ne va pas pleurer. Pas forcément. Mais on peut avoir des personnes qui sont... Pas forcément Elon Musk, mais Elon Musk, il a besoin d'une horde de fans qui, certains très sincèrement, peuvent faire la promotion d'un travail quasiment gratuit et peuvent, de façon positive, y adhérer. pas à, et qui auront d'autant plus de mal à accepter qu'ils peuvent être exploités parce qu'ils se disent oui, mais Fatima, je travaille pour une bonne chance.
En fait, c'est une exploitation affective que vous décrivez.
C'est quelque chose comme ça, oui. C'est exactement comme on exige à tort tes femmes qu'elles fassent le travail de soit tes sympas, de car tes sympas par amour. Et ça marche. Ça marche très très bien pour obtenir du travail de la part des femmes. Ça marche très très bien pour obtenir du travail de tout le monde. C'est extrêmement efficace. Et c'est une réappropriation par le capitalisme de principes qui étaient de principes qui lui sont extérieurs ou même qui font la critique du capitalisme. Mais il a toujours été très fort pour ça.
D'où pour vous, toujours dans cette optique de rendre le travail visible, l'importance du regard sociologique.
Oui.
Hein, c'est une chose dont vous parlez aussi dans le
bouquin. Oui, c'est. Moi, je suis toujours du côté de la sociologie par inclination professionnelle et personnelle. Estime à s'appeler intéressant, et c'est aussi une intéressante pour laquelle je voulais écrire ce livre, c'est que. C'est, comme je l'ai dit, c'est difficile de parler du travail, c'est difficile de parler médiatiquement. T'as le milieu journalistique, par exemple, t'es journaliste spécialiste du travail qui font tes reportages sur le monde du travail. Il y en a, mais il y en a de moins en moins. Parce que les mondes de travail, même du journalisme, sont difficiles.
Il n'y en a pas beaucoup parce qu'on estime que c'est chiant.
Voilà, c'est chiant. Puis ça te mate parfois de l'investigation, ça te mate du temps, ça te mate tes liens avec les organisations syndicales et avec les travailleurs. C'est compliqué à faire. Ou à plus, on a un clôtura, c'est les émissions de télé-réalité. On va proposer aux patrons de se faire passer pour un de ces travailleurs, etc. Si tu as une vision très, très piécée du travail, qui soulèverait plein de problèmes. Mais parmi les gens qui ont le temps d'aller sur le terrain et te raconter qui travaillent pour toi avec les travailleurs, ben, y a les sociologues. Il y a d'autres sciences sociales, mais les sociologues, notamment, font ça. Il y a une très grande richesse de la sociologie du travail, à France, ailleurs aussi, avec des chercheurs qui vont sur le terrain, qui passent du temps dans les entreprises, dans les administrations, qui racontent les chats et qui peuvent parler du travail, qui peuvent dire des choses extrêmement intéressantes et qui, quelque part, sont entraînés, la formation de sociologue, à tout cas moi, tel que je l'ai vécu, c'est un apprentissage à reconnaître le travail. À reconnaître le travail des autres. Parce qu'on apprend à reconnaître bon, le travail domestique. Voilà, comme je l'ai dit, le féminisme, il y a toute une branche de la sociologie qui a appris à faire ça. Mais on apprend aussi à voir que les militants, c'est déjà du travail. Tu organises une manifestation, une mobilisation, c'est du travail. On apprend qu'il y a un travail politique. On apprend même qu'il y a du travail au sein du couple pour faire fonctionner le couple. Tu travailles pour préparer la sexualité du couple. Des choses comme ça. Gérer la contraception de ce couple, en fait, c'est une charge mentale, c'est de l'énergie, c'est des choses comme ça. Donc, on apprend à tel sociologue à repérer du travail et à le reconnaître. Parce que c'est une modalité pour nous pour décrire la société. Pour décrire comment elle fonctionne, il faut voir ce que les gens font, ce à quoi ils prêtent de l'importance et ce qui produit quelque chose.
Alors, comme le terme travail est extrêmement ambigu, moi je dirais plutôt que ce que vous décrivez là, c'est de l'agir dans différents domaines, etc. Parce que le travail.
Vous voyez. Et je pense que c'est intéressant justement de le voir souvent avec le terme de travail. Parce que ça peut permettre de voir tes compétences, tes qualifications, tes contraintes. Pas simplement l'action, mais aussi toute une organisation collective. Et c'est ça le travail aussi. C'est pour ça qu'on utilise la notion de travail. Voilà. T'as ce sens où les sociologues sont un peu des professionnels pour voir le travail. Ça peut être intéressant un peu de faire un petit manuel de comment voir le travail. C'est ce bouquin.
Et du coup, pour lui restituer la valeur.
Pour lui restituer sa valeur, pour lui restituer son importance, pour lui restituer
son authenticité.
Ses qualités négatives et positives. Parfois, c'est quelque chose de très plaisant. Parfois, c'est quelque chose de dur et de pénible. Parfois, c'est quelque chose de nécessaire. Parfois, c'est quelque chose de complètement inutile. Mais il faut le voir à chaque fois tel qu'il est.
Okay. Denis, merci.
Merci beaucoup.
On vient
merci
de passer une heure à propos de votre livre « Qui travaille vraiment ?» Au livre que nous recommandons chaudement, bien entendu, Payot. Et merci encore.
Merci à Denis.
Et merci à Denis qui nous a fait.
contre le sacré. C'est avec joie que nous allons blasphémer, nous délivrer de Dieu pour délivrer le monde et détruire les gamètes de la bête immonde. Ce n'est pas seulement la vie que nous voulons, c'est également son sens et ses raisons. Et que je sois une femme ou un homme, je me révolte. Donc nous sommes...
C'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord.
C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre,
Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, ils l'avaient pas lu. Mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord.
C'est une chanson naïve, un accord de cristal, 2 minutes fugitives, sans rien d'original, comme un bruit de gencive contre une porte en métal, comme un bruit de gencive. C'est une larme qui coule comme une goutte de sang, le regard de la foule des martyrs innocents. C'est une force qui saoule l'engrenage incessant, un bruit de mort qui roule et qui va grandissant. C'est une force qui saoule et l'on se sent tout seul, mais c'est ton sang qui coule, c'est mon poing dans ta gueule. Quand un enfant s'écroule, quand un soldat dégueule, c'est une force qui saoule un amas de linceul. C'est une chanson naïve, un accord de cristal, une nouvelle relative quand on lit son journal. C'est la lame incisive, la douleur vertébrale, c'est la lame incisive. C'est une une chanson naïve, un accord de cristal sur des choses qui arrivent et qui deviennent banales, comme un homme que l'on prive de parties génitales, une femme écorchée vive, une fillette qu'on empale. C'est ma terre planétaire qui n'est pas pour demain, tant qu'il y aura des mains pour trancher ses artères. C'est un flot quotidien, et l'horreur et la guerre, c'est un visage humain piétiné sur des pierres. C'est une chanson naïve, un restant d'idéal, un rêve à la dérive sur un air de cristal. Une chanson émotive, sans théorie profonde, de minutes fugitives qui changeront pas le monde. C'est une larme qui coule comme une goutte de sang.
Ils se sont connus, machine et machin, sans l'avoir